vendredi, salit l'intime à l'agréable. C'est le grand format dans la JT.
Et c'est sur l'autre radio. Vous allumez le poste de radio, vous tendez l'oreille. Tiens, c'est en direct et surtout ça commence. J'arrive au bon moment, c'est ce que vous vous dites certainement. L'émission commence et la semaine se termine. Quelle histoire va m'être racontée aujourd'hui? Est-ce qu'on m'emmène quelque part? Puisque oui, chaque lieu murmure à sa manière des histoires. Ce peut être des histoires de souffrance, d'abandon, mais aussi d'espoir. Tiens, c'est ça dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui et ça tombe bien. Puisqu'il existe des lieux où l'on répare ce que la vie a brisé, le refuge de l'Arche, c'est un de ces endroits où l'on recueille ce qui a été malmené pour lui redonner une chance. C'est un refuge pour les animaux, blessés, fatigués, oubliés, mais aussi pour les âmes humaines qui trouvent ici aussi une manière d'avancer. Je vous parle d'histoire, c'est parce que celle-ci s'écrit aujourd'hui avec encore plus d'urgence. 1 euro pour les animaux, c'est la campagne de dons qui est lancée comme un cri du cœur pour justement continuer à panser les plaies, pour continuer à faire de ce refuge une arche au sens propre comme au figuré. Alors embarquons, c'est le grand format de la JT qui commence. On se rend à Château-Gontier et on rencontre celui qui se trouve aujourd'hui à la direction de ce lieu unique, là où les mots bienveillance et résilience prennent tout leur sens. Je tends mon micro à Jean-Marie Mulon aujourd'hui. Jean-Marie, si vous le voulez bien, est-ce qu'on peut revenir sur la création du refuge?
Alors la toute première histoire démarre en 1968, puisque Christian Hugedet, notre fondateur, était alors salarié de la ville de Château-Gontier et il était entraîneur du club d'aviron. Mais tout le monde savait à Château-Gontier que c'était un passionné par les oiseaux, qu'il adorait leur venir en aide. Et au moment où d'aucuns se jetaient des pavés sur la figure à Paris, bah, lui, il posait des nichoirs dans les jardins publics de la ville. Parce que c'était sa conception et surtout parce qu'il avait plus d'un demi-siècle d'avance sur des questions qui aujourd'hui sont des questions brûlantes. Et il était donc cet entraîneur du club d'aviron et des jeunes viennent le voir en lui disant « Christian, on a trouvé un canard noir en train d'agonir sur la rivière la Mayenne, il faut qu'on essaie de le sauver ». Il s'avère que ce canard noir était en fait un cormoran. Effectivement très mal en point. Christian a fait ni une ni deux, il est allé chez son ami Jacques Bouillot, créateur du zoo de la Flèche, qui avait du matériel pour opérer. L'animal a été opéré, malheureusement il n'a pas survécu, mais cela a permis de savoir que c'était du plomb d'un chasseur qui avait tué cet animal. Et j'ai coutume de dire que ce chasseur n'imaginait sans doute pas le bien entre guillemets qu'il allait faire à la protection animale, puisque de cette aventure est né le refuge de l'Arche, d'abord sous forme de ce qui s'appelait en France les clubs chouettes, et puis c'est devenu donc officiellement le refuge de l'Arche le 5 mars 1974, là où la première pierre a été posée, dans un endroit qu'on retrouve d'ailleurs toujours aujourd'hui.
Aujourd'hui, le refuge de l'Arche a 50 ans. Qu'est-ce qu'on peut dire de son évolution entre ce début et ce qu'il est devenu aujourd'hui?
Alors géographiquement, il est passé d'un hectare, puis 10 ans après, il est passé à 9 hectares, puis 14. Et aujourd'hui, nous sommes à 23 hectares, finalement en cœur de ville, avec l'agrandissement de Château-Gontier sur Mayenne. Au-delà des chiffres qui démontrent déjà que nous sommes sur une belle petite exploitation au sens noble du terme, puisque notre métier en tant qu'exploitant de ces terrains, eh bien effectivement, c'est de sauver les animaux. 50 ans plus tard, que s'est-il passé? Tellement de choses qui seraient prétentieux de vouloir en extraire et en faire une rétrospective, mais évidemment des faits marquants, parce que qui, dans les années 70, aurait pu imaginer que des lions rugiraient en plein cœur de la ville de Château-Gontier, qu'on trouverait ici des ours, des panthères, des tigres, mais aussi énormément d'espèces d'oiseaux exotiques, bien sûr des petits mammifères. Bref, 1000 pensionnaires, c'est quelque chose d'impressionnant quand on y pense. Et puis, au-delà des animaux, je l'ai dit, ce sont eux qui font battre notre cœur de métier. Mais au-delà des animaux, il y a cette merveilleuse histoire avec le chantier d'insertion, puisqu'en 1994, ce fut le premier chantier d'insertion de la Mayenne. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir 19 salariés en insertion. Et comme l'animal ne juge jamais, je crois pouvoir dire en leur nom qu'ils sont ici pour retrouver confiance, à la fois confiance bien sûr dans un travail, dans une mission, mais aussi confiance de manière plus générale dans une société qui bien souvent les a abandonnés.
Combien d'espèces et combien d'animaux sont accueillis au refuge ?
Alors en moyenne, nous avons 1000 pensionnaires. Hein. Ça peut varier évidemment avec des décès d'animaux. Chaque décès étant souvent compensé par un nouveau sauvetage. C'est aussi le cycle de la vie qui s'exprime. Hein. Des animaux disparaissent par vieillesse, par maladie. Immédiatement, on repense à la manière dont on peut... Pour à la fois conserver l'équilibre entre les espèces, puisque nous avons 120 espèces différentes ici, ce qui fait quand même une représentation assez intéressante de la faune sauvage exotique. Donc, c'est vrai qu'on nous pose souvent la question pourquoi on ne voit pas de naissance au refuge de l'Arche. Eh bien, il faut savoir que chaque naissance prendrait une place. Donc nous ne sommes pas dans cette vision-là. Nous avons notre forme d'éthique à nous. C'est justement de ne pas faire se reproduire des animaux en captivité, puisque beaucoup de nos pensionnaires viennent déjà de la captivité en plus.
Comment est-ce que les animaux sont recueillis ici, si on parle notamment là, de leur parcours, qui sont ces animaux qui arrivent au refuge de l'Arche ?
Toutes les espèces qui sont présentes ici ont souvent malheureusement eu maille à partir avec l'humain qui... On le sait, fait un peu n'importe quoi de déséquilibre des écosystèmes, de la nature de façon globale et ce, de par le monde, malheureusement. Ce n'est pas un phénomène isolé. Et donc, les animaux qui sont chez nous viennent de laboratoires, viennent de cirques, bien évidemment, viennent du trafic illégal. Il faut savoir qu'après la drogue et les armes, le troisième trafic dans le monde, ce sont les animaux. Donc, souvent, on est loin d'imaginer cette donnée. Mais c'est dire si ce trafic, malheureusement, ne va pas en diminuant. Donc, quand nous affirmons que ici chaque animal a son histoire, a son périple, et bien souvent elle est malheureusement liée à une mauvaise rencontre avec l'homme à un moment ou à un autre. Et nous sommes là pour tenter de leur apporter une fin de vie heureuse.
Et alors autre chose, qu'est-ce qu'on peut dire du rôle du refuge de l'Arche sur le territoire ? Il y a la sensibilisation justement à la cause animale, mais ça va bien au-delà, Jean-Marie.
Oui, il y a bien sûr tout le travail que nous accentuons d'ailleurs pour la saison 2025, tout le travail de sensibilisation à l'idée d'une éventuelle détention d'un animal. Mais au-delà de tout cet aspect, et quand je disais tout à l'heure que Christian Hugedé et sa famille avaient été extrêmement précurseurs en nous parlant dès 1974 et même un peu avant de l'équilibre des écosystèmes, de l'importance de la biodiversité. Il avait mille fois raison, mais sans doute était-il pris à l'époque pour un doux rêveur, parce qu'on s'inquiétait assez peu en détruisant notamment des haies, du mal que l'on ferait à l'habitat naturel, et qui pourtant est notre support de vie, il faut jamais l'oublier. Et donc, au-delà de tout cet aspect, il y a un aspect économique indéniable, puisque nous sommes le premier site touristique du département de la Mayenne, avec 85 000 visiteurs les années où la météo est à peu près correcte. Donc il y a un impact direct sur des visites qui vont se faire ici au niveau de Château-Gontier-sur-Mayenne, mais également ailleurs dans le département, parce que nos visiteurs, bien sûr, peuvent rester se restaurer ici. Nous avons un hall de pique-nique, un petit espace de restauration, mais bien souvent, ils vont en ville faire fonctionner le commerce local. Et puis, sans compter sur une surface aussi importante que la nôtre, l'ensemble des matériaux que l'on achète, toujours en proximité avec des entreprises locales. Donc voilà, tout ça mis bout à bout. Et puis, bien évidemment, l'emploi que nous générons et que nous créons chaque fois que nous le pouvons en fonction de notre situation économique.
fait, non, là, il faut savoir que d'abord, ça reste quand même un animal nocturne, mais en sécurité de temps en temps, et c'est comme s'il dormait.
Jean-Marie, vous êtes un passionné, vous êtes donc arrivé ici il y a 2 ans en tant que directeur, mais votre lien avec le refuge remonte à bien plus longtemps. Quel attachement vous avez personnellement avec ce lieu ?
C'est un lieu tellement, tellement insolite qu'effectivement, si je n'en suis le directeur que depuis un peu plus de 2 ans, cela fait 40 ans que je me passionne pour ce lieu, parce qu'il a je crois pouvoir le dire, en tout cas à titre personnel, c'est mon analyse, il a apporté à ce territoire, vous l'avez dit, un côté à la fois insolite. Il faut se souvenir qu'il a longtemps été le seul en Europe à avoir fait le pari, compliqué d'ailleurs, d'ouvrir ses portes au public avec tout ce que cela comprend, à la fois de normes, d'obligations, mais aussi de satisfaction. Et il est vrai que pour être un enfant de Château-Gontier, chaque fois que j'en suis parti, j'y suis revenu, eh bien ce lieu nous interpellait. Moi, je suis de la génération des années 70, et il est vrai que quand j'avais des camarades qui me disaient « nous faisons partie du Club Chouette », et Christian nous a dit que bientôt il y aurait sans doute un lion et puis bien d'autres animaux, parce que ici c'est pas la taille de l'animal qui est importante, c'est la façon dont on va pouvoir lui tendre la main. Eh bien, il y avait ce côté magique dans une petite ville de province de se dire il y a des gens qui ont osé faire ça. Je pense aux fondateurs, hein, encore une fois, et à ses proches, et à tous les bénévoles qui ont permis que les premiers bâtiments soient construits. C'était, il faut resituer les choses dans leur contexte, hein. C'était des jeunes qui avaient 14, 15 ans, qui venaient ici tous les week-ends, et qui ont donné énormément de temps, et puis qui apprenaient à manier la truelle, le béton, le bois, les marteaux et les scies. Et tout ça m'impressionnait fortement, et c'est la raison pour laquelle chaque fois qu'il s'est passé un événement au sein du refuge de l'Arche et puis de ces structures, j'ai toujours demandé à être invité si l'équipe jugeait que c'était ma place, et ça a toujours été respecté. Et ce qui fait que j'ai pris, chaque fois que je venais pour des événements, je prenais des notes, je prenais des photographies, et je me disais qu'un jour sans doute nos chemins se rencontreraient. Et puis ben voilà, ça s'est concrétisé. C'est à la fois une lourde responsabilité, parce que c'est un établissement pluriel, on l'a dit plusieurs fois, mais c'est une chance aussi de le posséder. Je pense que il faut le vivre de l'intérieur pour s'en rendre compte tout à fait et entièrement.
Si j'étais un oiseau, je survolerais les villes. Je survolerai les campagnes, les parkings, d'autres parkings, les monuments, les chantiers. Je survolerai les chantiers. Si j'étais un oiseau, même tout petit, je survolerai le pays avec le vent, avec les nuages, avec les avions de chasse, les avions de chasse, les avions de ligne. Je survolerai les vignes, je mangerai les raisins, j'irai les pépins le long des cours d'eau. Si j'étais un oiseau, si j'étais un oiseau, mais je ne suis qu'un serpent. Mon ventre est sur la pierre où je ferai ma tombe. Je ne suis qu'un serpent, et de muse en muse, de prairies en prairies, je perpétue mes hécatombes. D'ailleurs, je mange les œufs de colombe. Thank you. cui, 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 cui.
C'était Bertrand Belin et son titre Oiseau. C'est le grand format dans l'agité du local, c'est sur l'autre radio. Et aujourd'hui, on vous emmène aux côtés de Jean-Marie Mulon, directeur du Refuge de l'Arche. Justement, Jean-Marie, le Refuge de l'Arche relance une campagne de dons. Qu'est-ce qu'on peut dire des difficultés financières rencontrées par le Refuge ?
Alors, le Refuge n'a pas été épargné, comme malheureusement nos propres familles, nos entreprises sur les territoires. L'inflation a fait beaucoup de mal. Et puis, il faut aussi prendre en compte le fait que les normes évoluent, qu'un parc comme celui-ci, on a à la fois la fierté d'avoir 50 ans, mais justement, cela nous confère aussi des obligations en termes de rénovation. Les bâtiments de la première ou des 10 premières années sont fatigués pour certains quand ils n'ont pas déjà été restaurés au fil du temps. Cela veut dire que malgré nos difficultés, nous devons conserver trois caps, j'allais dire. Le premier, c'est celui effectivement de prévoir des travaux pour favoriser l'axe numéro 2 qui est celui de la poursuite de nos sauvetages et puis bien évidemment préserver l'emploi des femmes et des hommes qui font vivre ce refuge. J'ai pu entendre en raison des difficultés que nous avons eu l'honnêteté de mettre au grand jour. C'était une volonté assumée qui parfois d'ailleurs peut-être jeter un peu d'inquiétude. Il faut savoir que grâce à l'accompagnement des Mayennais, des Mayennais, mais des Ligériens et puis parfois de gens de bien plus loin qui sont passionnés par l'action que nous conduisons au profit de la protection animale, eh bien, nous permettent d'envisager l'avenir sereinement. Nous n'aurons jamais ici la folie des grandeurs. L'idée étant véritablement qu'un euro investi soit un euro dédié à l'animal. Que cela passe par le salaire d'une soigneuse ou d'un soigneur, ou que cela passe par un bâtiment, pour nous c'est la même chose. L'essentiel, c'est le bien-être de l'animal. Je le dis, je le redis, ce sont des animaux qui ont tellement vécu, auxquels on doit tellement au nom de la race humaine, auxquels nous devons tellement de réparation. Que bah oui, évidemment, ça coûte cher, et quand je peux entendre ici et là, mais vous avez des difficultés, est-ce que c'est raisonnable de continuer à accueillir des animaux ? C'est notre cœur de métier. Si un boulanger arrête de faire du pain, il fermera sa boulangerie. Donc il est hors de question, nous accueillons de manière raisonnée et raisonnable. Nous réfléchissons vraiment avec ce qui peut s'apparenter à un staff médical, puisque nous avons une dimension vétérinaire extrêmement forte, eh bien, à un accueil. J'ai dû refuser hier un fauve qui avait été saisi dans le nord de la France parce que nous n'avons pas la place de l'accueillir. Donc voilà, nous savons aussi faire ces choix parce que ça fait partie de nos métiers, de nos responsabilités. Mais il est évident qu'on ne peut pas s'arrêter, et ce qui nous sauve et ce qui nous sauvera, et comme je le dis souvent, de toute manière nous nous battrons jusqu'à la dernière plume, c'est la fidélité et des donateurs et de nos visiteurs, et souvent d'ailleurs ce sont les mêmes.
Expliquez-nous cette campagne et comment est-ce que l'on peut vous soutenir ?
Alors, la campagne a démarré donc le lundi 25 novembre. Elle se terminera le 31 décembre, donc pour la Saint-Sylvestre. Passons le réveillon ensemble. Plusieurs façons. Des tirelires, nos fameuses, maintenant, elles sont déjà connues au bout de 2 années, donc c'est plutôt rassurant. Ce sont nos fameuses tirelires orange. Je le dis usuellement, nous sommes avec d'autres causes à défendre, en train de reconstituer l'arc-en-ciel de l'espoir, puisque après Octobre Rose, et on souhaite à chaque fois une réussite pleine et entière de ces manifestations, parce qu'elles sont hautement précieuses. Eh bien, après Octobre Rose, il y a les tirelires orange du refuge de l'Arche, et puis après viennent les pièces jaunes. Donc, nous sommes dans des couleurs de l'espoir. Donc, il y a toutes ces tirelires. Nous en avions mis à disposition des donateurs 80 l'an dernier. Nous avons passé les 400 dépôts cette année, et on a encore un peu de réserve pour les auditrices, auditeurs de l'autre radio qui auront besoin et qui auront le souhait surtout de déposer leur contribution. Et puis bien évidemment sur le site du Refuge de l'Arche, www.refuge-arche.org. Là, la démarche est très facile pour celles et ceux qui voudraient peut-être aller au-delà d'un simple euro. Et puis de la même manière pour les contributeurs qui vont dans les commerces, eh bien ça n'est pas un euro obligatoire. Si on donne 10 centimes, on donne 10 centimes. Ce qui nous avait séduit et motivé à faire cette campagne l'an dernier en grande urgence, c'était justement le fait de rendre presque possible pour tout le monde cet accompagnement à qui aime la protection animale. Parce qu'un euro, je ne dis pas qu'on puisse tous l'avoir facilement dans sa poche, mais c'est quand même plus facile que des fois des sommes très importantes qu'on ne peut pas mobiliser parce qu'on n'a pas les moyens de le faire. Et donc là, ça rend possible. Et puis on a quelques retours de l'opération de l'an dernier. Ce sont des boulangers et boulangères qui nous disaient, mais tous les jours, on voyait des enfants venir avec leurs petites pièces. Parfois, c'est 1 centime d'euro, mais ils étaient tellement fiers de contribuer, et évidemment qu'ils ont contribué. Il faut savoir que nous avons levé 110 000 euros l'an dernier, et c'était inespéré dans un moment aussi critique. Et forcément, cette année, en 2024, on caresse l'espoir de faire aussi bien, mais ça, on le saura sur la première quinzaine de janvier.
Quelle serait peut-être la somme idéale à recueillir ?
Alors, on sait bien que nous avons chaque année, de manière assez récurrente, un besoin que nous n'avons pas de trésorerie de 250 000 euros. Ce sont les chiffres que j'avais donnés l'an dernier. Nous avons travaillé sur énormément d'économies. Nous avons profondément réorganisé les équipes. L'ensemble des efforts qui pouvaient être faits par l'association a été fait. Maintenant, on sait que, en raison de ce que j'expliquais en début d'entretien sur l'inflation et sur les actuels besoins, on sait qu'il y a ce besoin de consolider notre trésorerie à hauteur de 250 000 euros. C'est à la fois bien sûr pour aujourd'hui, mais c'est aussi pour celles et ceux qui nous suivront dans la consolidation de ce totem de la Mayenne. Et aujourd'hui, dans la liste des choses qui sont à entreprendre, nous devons nous intéresser de très près, et ce dès 2025 si possible, à une rénovation de ce que nous appelons le secteur primate. Alors on a magistralement commencé en le faisant en équipe et grâce aux dons de l'an dernier avec cette magnifique volière des Tonkéans qui représente l'aboutissement d'un rêve. Il faut le dire comme tel, parce que je le dis, je le redis, et je rends hommage à nos équipes en l'évoquant, c'est que ça a été entièrement fait chez nous. Donc ce sont des heures qui ont été passées par les salariés, se concertant entre l'équipe technique, les soigneuses et soigneurs, bien évidemment le pôle de direction, et puis l'accompagnement de fondations, et notamment la fondation Bougie de Bardot, qui nous a aidés à aboutir vers ce rêve qui était loin d'être une réalité il y a 2 ans encore. Donc nous voulons continuer sur toute cette partie basse du refuge face à l'île des Babouins, qui est un point stratégique aussi de la visite, pour permettre de nouveaux sauvetages, puisque nous avons toujours des demandes de sauvetage de primates et pour l'instant nous ne pouvons pas les assumer. Et puis il y aura dans les réflexions 2026 à se positionner sur les animaux de cirque, bien entendu. C'est un vaste dossier, on y travaille énormément, et au milieu de tout cela, je souhaite, et ça a été présenté il y a quelques jours au conseil d'administration, je souhaite que pour le printemps prochain, nous puissions proposer aux familles un nouvel espace davantage jeu, parce que celui-ci est très vieillissant. Il est évidemment toujours sécurisé, puisque les outils les plus, qui pourraient être dangereux sont bien évidemment retirés. Mais on voudrait redonner un peu de fraîcheur. Et puis il y aura un petit embellissement qui va passer aussi par un travail de notre équipe technique du parc, avec notamment de la pose de ganivelle. Le public ne sait pas toujours ce qu'est la ganivelle, mais ce sont ces magnifiques allées en bois, souvent de châtaigniers, qui nous conduisent vers les plages. Alors nous n'avons ni la mer ni la montagne, mais nous avons de la ganivelle et des allées formidables. Donc voilà, c'est un petit embellissement, mais c'est aussi pour que le public qui nous est si fidèle, puisque les gens viennent et reviennent de plus en plus régulièrement, eh bien ne soit pas toujours dans le même décor. Il nous semble que c'est important pour aller observer les animaux. Tout est fait toujours, encore une fois, autour de l'observation et du bien-être animal, mais on veut aussi que ce soit agréable pour le public qui vient passer une journée chez nous.
Et Jean-Marie, pour terminer ce moment, est-ce que vous avez un rêve, un espoir à partager avec l'auditeur de l'autre radio ?
Que dans 50 ans, quelqu'un d'aussi passionné au nom des équipes, parce que seul on est rien, puisse dire au micro de l'autre radio, bientôt nous aurons 100 ans.
C'est le grand format dans la JT. Le vendredi dans cette émission, c'est aussi le jour de l'agenda culturel de la semaine. Et alors, j'ai envie de vous parler de pas mal de rendez-vous aujourd'hui. Écoutez bien et prenez note. On commence avec des ciné-débats organisés par la Ligue des droits de l'homme de la Mayenne, puisque la guerre au Proche-Orient est particulièrement préoccupante. Les citoyens, les citoyennes que nous sommes ont besoin de se rassembler pour faire front commun afin d'exiger le respect du droit international, afin que s'ouvre une perspective de fin du conflit, ce qui passe par l'égalité des droits, la justice pour tous, pour tous les habitants de cette région. Alors voilà, la Ligue des droits de l'homme organise deux projections du film documentaire No Other Land, sorti en 2024. Elles auront lieu au cinéma Le Vox à Mayenne ce soir à 20h30 et au cinéma à l'Avant-Scène à Laval ce dimanche 8 décembre à 18h. Ces projections seront évidemment suivies d'échanges et d'un débat animé par l'association. On continue cet agenda de la semaine à la salle craonnaise, plus précisément à la salle de Lorion. Mon attention s'est arrêtée sur le spectacle Deux Sœurs de la compagnie Le Cri de l'Armoire. Alors pour vous en dire quelques mots, c'est une soirée qui est organisée dans le cadre des veillées de la saison spectacle vivant et en partenariat avec l'association Tous en Selle. C'est donc une soirée chaleureuse qui commence à 19h par un moment convivial autour du feu, des marrons grillés, des boissons chaudes et des interludes musicaux vous seront proposés en préambule du spectacle. Ensuite, on se plonge dans un thriller avec la pièce Deux Sœurs de la compagnie Le Cri de l'Armoire, je vous le disais. L'histoire que vous découvrirez se déroule en Irlande en 1953, où une jeune fille, Eileen O'Leary, disparaît mystérieusement. 60 ans plus tard, Mark retrouve le carnet intime de la jeune disparue et décide de mener sa propre enquête pour découvrir ce qui s'est réellement passé. Mais plus il avance, plus il se retrouve pris dans un tourbillon de mystère où la peur et la folie se confondent. Deux Sœurs, c'est un thriller théâtral qui brouille les frontières entre la réalité et l'imaginaire. Ça se passe donc ce soir à la salle craonnaise, salle de Lorion, à partir de 19h. On se rend maintenant au théâtre L'Entracte à Sablé-sur-Sarthe pour une date quand même assez exceptionnelle. Écoutez.
Le 7 décembre, nous accueillerons Tiken Jafakoli. Donc une date événement à Sablé. Moi, ça fait une vingtaine d'années que j'essaye de l'accueillir, que ce soit sur notre festival de plein air l'été ou en saison. Et là, j'ai vu qu'il allait jouer à la salle Playel sur un projet particulier où il a décidé de revisiter son répertoire accompagné de musiciens de musique traditionnelle de l'Afrique de l'Ouest. C'était vraiment l'occasion de l'accueillir dans un théâtre, place assise, tout ça. Donc c'est vraiment une date événement. On est toujours sur l'univers et notamment les textes très engagés, très concernés de Tiken qui nous remettent en cause parfois, nous, dans cette confrontation entre l'Europe, l'Afrique. Donc voilà, il y a des moments où c'est même dérangeant, mais ça fait du bien, en fait, d'être confronté à ce discours-là. Et musicalement, alors si on s'échappe un peu des concerts habituels reggae de Tiken, mais il est super bien entouré. On regrette même qu'il n'y ait pas un set spécifique avec que les musiciens. Donc c'est vraiment une soirée exceptionnelle et un gros coup de cœur de les accueillir à Sablé.
On continue et termine avec le Carré à Château-Gontier. C'est Christine Houdard, programmatrice jeune public, qui nous en parle. Écoutez.
Le 7 décembre, nous proposons un ciné-concert présenté par Ellie James, qui est une musicienne rennaise, musicienne anglaise, qui nous concocte un rendez-vous pour les amateurs de chiens en tout genre, puisque le spectacle s'appelle Dogo. Et donc, elle a composé plusieurs musiques qui vont accompagner des courts-métrages dont les personnages principaux sont des chiens. Alors, il y a vraiment toutes sortes d'esthétiques dans les courts-métrages d'animation. On peut avoir du stop-motion, voilà, du dessin animé. On traverse toutes les techniques du cinéma d'animation. Des personnages assez spécifiques. Ils ont vraiment tous leurs petites caractéristiques assez drôles. Donc, on a des rendez-vous un peu plus touchants, un peu plus sur l'émotion et des choses qui sont complètement délirantes et très drôles. Ellie James, elle a un univers musical, on est vraiment dans la pop, électro, c'est vraiment très subtil et donc elle prend le temps en plus après le ciné-concert de présenter justement sa musique et les instruments qu'elle utilise et comment elle crée tout ça. Donc ça, ce sera le 7 décembre à 17h et le matin, avec Atmosphère 53, justement, on propose des ateliers stop-motion, donc voilà, accessibles dès 3 ans. Donc on peut s'essayer au stop-motion dès 3 ans. Il y aura 4 rendez-vous sur la matinée, l'occasion de tester des petites choses et toujours avec des chiens.
L'JT du local, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Jean-Marie Mulon de nous avoir accueillis au Refuge pour ce bel échange. La visite ne s'arrête pas là, d'ailleurs, elle ne fait que commencer. Soyez au rendez-vous de votre émission quotidienne la semaine prochaine. Moi, je vous laisse ici, mais votre soirée s'annonce vraiment bien sur les ondes de l'autre radio. Et pour bien la commencer, pour bien commencer même votre week-end, vous écouterez l'émission Dance Hall Social Club à 19h pour des sucreries musicales du passé. Une émission qui sera suivie de Tempus Fugit à 20h avec Fred et Plom. Voilà, j'ai envie de regarder un peu avec vous ce qui vous attend quand même ce week-end. Samedi à 10h, c'est l'émission Alors on joue. C'est la 8e de cette saison et c'est une émission spéciale Noël. À 13h, l'émission Rock Dreams fera un focus sur le groupe Saga. Et alors, un petit coup d'œil sur dimanche avant Jazz Attitude qui clôture chaque week-end à partir de 21h. Eh bien, vous écouterez l'émission Comment c'est loin. C'est à 19h, c'est l'émission Nostalgie qui met en lumière le rap de toute époque. Moi, je vous dis à lundi pour une nouvelle émission de l'AJT du local. D'ici là, sortez de chez vous, allez à un concert, au cinéma, au théâtre. Soutenir la culture, c'est aussi et surtout une belle manière de faire le bien.
C'est déjà la fin, qu'est-ce qu'on va faire maintenant?
Mimi, il y a d'autres émissions qui sont bien aussi sur l'autre radio.